À CJSO 101.7, vous écoutez Valérie Ferland, l'après-midi.
Et je joins au téléphone Annie Boiland, spécialiste en ressources humaines. Salut Annie!
Bonjour Valérie!
On va parler avec toi aujourd'hui de mettre fin à une initiative. Ben, pourquoi c'est difficile de s'arrêter quand on est au cœur d'un projet?
Oui, l'art de quitter au bon moment.
Ouais.
Difficile de quitter au bon moment. Oui, parce que quitter, ça a mauvaise presse, hein, Valérie? Tu sais, si on regarde des synonymes de quitter, on va avoir laissé aller, abandonner. Mm. Tu sais, c'est un loser comme vocabulaire.
Ouais.
Alors que si on regarde persévérer, on va avoir des synonymes comme s'accrocher, se battre. Tu sais, c'est un vocabulaire de gagnant. Pourtant, laisser aller au bon moment, quitter au bon moment, c'est un art. Puis ça peut générer des économies de temps, d'énergie, de réputation. Alors, c'est intéressant de s'attarder à pourquoi c'est difficile de quitter, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier ce processus-là.
Mm.
Ici, Valérie, là, on parle de quitter au sens très large. Hein. Si dans notre monde des affaires, ça peut être quitter un marché, ça peut être quitter un produit, une initiative, ça peut être quitter un employeur, si je suis du côté de l'employé. Alors, pourquoi c'est difficile? Bon, d'abord, ça a mauvaise presse, puis inconsciemment, ça crée une pression pour nous. Deuxièmement, il y a des biais inconscients qui s'opèrent dans notre cerveau qui font qu'on a tendance à s'accrocher à ce qu'on a déjà. Le premier d'entre eux, c'est le biais qui s'appelle la cristallisation de la perte. Fait que ce que je te l'explique, Valérie, ça t'intéresse? Je t'explique ça?
Oui, oui, je t'écoute attentivement.
Oui. La cristallisation de la perte, c'est de se dire, ben si j'arrête maintenant, tout ce que j'ai fait, mon énergie, mon argent, mon temps que j'ai mis là-dedans, je vais avoir tout fait ça pour rien.
Ah oui.
Donc, on ne veut pas conclure ça, ça qu'on a tendance à continuer. Pourtant, c'est une mauvaise réflexion, ça. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est dans le passé. J'ai plus de contrôle. La seule bonne question, c'est le prochain dollar que je vais investir. Devrais-je l'investir sur ce produit-là, sur ce marché-là? Le prochain mois d'effort professionnel que je vais déployer, est-ce que je devrais le faire avec cette équipe-là? C'est comme ça que je devrais le regarder. Donc, on a tendance à vouloir, à se faire à croire qu'on va cristalliser une perte, alors que dans les faits, elle est déjà opérationnalisée, cette perte-là. Mais on ne veut pas se l'admettre, donc on préfère continuer de faire ce que nous faisions déjà.
On peut avoir peur de ce qui s'en vient aussi, l'inconnu.
Oui! Puis ça, Valérie, c'est exactement le deuxième. C'est surestimer le défi que représente de commencer quelque chose de nouveau, l'inconnu, comme tu dis. Alors, l'idée, hein, souvent, c'est qu'on pense que ça va être plus difficile que ce n'est vraiment de trouver un nouveau marché, un nouveau produit, une nouvelle idée, une nouvelle bonne équipe. Je te donne un exemple. Je te dis, je suis tannée de ma job, j'haïs ça, j'aime pas ma job présentement. Puis là, tu me demandes, est-ce que tu veux changer? Moi, je te dis, ah, je veux pas changer. Puis si je change, je vais peut-être me retrouver dans la même situation de toute façon, parce que ça vaut pas la peine.
On dirait que c'est la même chose avec les relations personnelles.
Il y a des liens, hein? Oui. Ça, là, l'expression anglaise qui dit « un diable que je connais, c'est mieux qu'un diable que je connais pas
ouais. »,
c'est exactement ce biais-là. C'est sot de se dire ça. Je ne veux pas quitter parce que l'autre, ça pourrait aussi mal aller.
Mm.
Si on le regardait de l'autre côté, la question qu'on pourrait se poser, tu pourrais me dire « ben Annie, c'est quoi les chances, si tu restes dans ton emploi actuel, que tu sois heureuse dans un an d'ici? » Ben, si je te dis 0% des chances, ouais. Je pense que ça ne changera pas. Puis là, tu me demandes, OK, puis si tu changes, c'est quoi les chances que tu sois heureuse? Je te dis, peut-être 50%, c'est une chance sur deux. Ben, on le voit, hein? J'ai bien plus de chances d'être heureuse si je change.
Puis moi, je te dirais, ben si tu ne changes pas, arrête de chialer.
Ben, pas aussi, ça lève ça. Fait qu'en gros, là, ce qui se passe, c'est que quitter, c'est la mauvaise presse. Quand j'essaie de faire ça, mon cerveau me joue des tours. Il y a des biais qui s'opèrent. Donc, par conséquent, on a tendance à s'accrocher aux mauvaises affaires. Dans la vie, hein, perso, comme souvent dans notre vie professionnelle. Qu'est-ce qui peut nous aider? Je vais te partager deux trucs. Le premier, c'est de se donner des indicateurs, des marqueurs dans le temps. C'est-à-dire que quand on a pris la décision d'investir dans un produit, un marché, une personne, on se donne à ce moment-là des indicateurs. Par exemple, ben, dans un an, cette personne-là devrait être en mesure de faire telle chose. Le marché devrait nous avoir donné tant de profits. Par exemple, si dans un an après avoir commencé mon nouvel emploi, j'ai l'impression que j'apprends plus rien, ben là, je saurai que c'est le temps de tirer la plug. Donc, se donner des marqueurs en amont pour nous aider à allumer quand on va faire face à ces situations-là. Le deuxième que je te partage, Valérie, c'est celui-là que je pense qui t'intriguait le plus, mon histoire de singe.
Ben oui.
Qu'est-ce que le singe a à voir là-dedans? Alors, je suis toujours dans comment savoir quand c'est le temps de quitter. Puis là, je te partage un outil qu'utilise la firme Google. Google, évidemment, se font présenter des milliers de projets dans une année. Puis le but du jeu pour eux, c'est de déterminer le plus rapidement possible quels sont de ces projets ceux qui ont le plus de chances de succès. C'est comme ça que ça se passe pour eux.
Non, puis on n'a pas le temps de niaiser là, avec eux.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, lesquels qui ont les plus profitables. Donc, pour faire ça, ils utilisent le test du singe. Et là, ça s'applique. Voici comment ça fonctionne. Si j'ai à enseigner à un singe à jongler avec des bâtons enflammés sur un podium, qu'est-ce que je devrais faire en premier? Et là, il y a des entreprises qui vont dire, ben, je vais construire le podium. Le point étant, c'est ce qu'on appelle en anglais mon « low-hanging fruit ». C'est mon gain le plus accessible, le plus facile à déployer. L'enjeu avec ça, c'est que c'est vrai, sauf que j'apprends rien quand je construis le podium. Mm-hmm. On sait tous déjà comment construire le podium. Mon vrai point d'interrogation, c'est vais-je être en mesure de dompter un singe pour qu'il jongle avec des bâtons?
Effectivement.
Ça, c'est ce que je ne sais pas. Alors, ce que Google nous enseigne, c'est pour savoir sur quoi avancer puis quoi lâcher, quoi quitter, de s'interroger sur le cœur du problème, le singe, puis de déterminer dans ma problématique, mon défi, c'est quoi le plus difficile, puis de tout de suite s'aborder à ce sujet-là. Puis si la conclusion est négative, je n'arrive pas à démontrer et à savoir si je vais être capable, tire la plug à ce moment-là.
Annie, je suis certaine que ça a suscité des réactions dans la tête de plusieurs personnes, notre entretien de cet après-midi. Je te remercie beaucoup.
Ça fait plaisir, Valérie. C'est une bonne réflexion.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.